Alors, pour ceux qui étaient à l'antenne hier, nous avons fait quelques entrevues pour parler des appels à l'aide qui montent en flèche parce qu'on parle de violence envers les communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Des appels à l'aide, donc, qui viennent de Interling, qui viennent de Gris, qui viennent un peu partout parce qu'il y a vraiment une montée de cette violence. Les chiffres de Statistique Canada le montrent. On parle même de dans certains cas que ça a monté du tiers. Les appels à Interling ont doublé. Bien, ça donne qu'aujourd'hui, j'avais prévu de parler de la première enquête nationale sur la santé économique et le bien-être des personnes de LGBTQIA+, qui vient d'être lancée. Je pense que ça donne assez bien à ce moment-ci. Il n'existe pas encore de données nationales exhaustives sur le sujet, ce qui rend difficile l'élaboration de politiques publiques adaptées, l'allocation adéquate de ressources aux organismes sans but lucratif ou encore à l'attribution équitable des bourses scolaires. Alors, pour discuter de cette enquête, c'est une vaste enquête, c'est la première fois que ça va se faire, je reçois Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue à l'émission, Martin.
Merci, Denis Martin.
Ah oui, c'est vrai, on a des noms qui se ressemblent. Oui. Alors, justement, j'en ai mentionné un petit bout en présentation, mais oui. Allons-y avec l'expert. Pourquoi cette enquête?
Bien, alors, la vérité, c'est que les populations de LGBTQ+, continuent de faire l'objet de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, sur la base de l'identité de genre, sur la base du sexe, et que, évidemment, ça a un impact sur leur trajectoire socio-économique. Enfin, on a différents indices, en fait, qui nous permettent de le présumer. L'enquête vise à aller beaucoup plus loin, mais disons juste d'entrée de jeu, par exemple, que les données de l'Institut de la statistique du Québec, les données les plus récentes qu'on a sur le sujet, montrent que les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles sont deux fois plus susceptibles de vivre du harcèlement en milieu de travail que les personnes de la population générale. Et chez les personnes trans et non-binaires, c'est trois fois plus. Alors ça, c'est un indice. Quand on regarde les situations d'itinérance, bien, les jeunes en situation d'itinérance, on en a 25 à 40 % qui sont des jeunes LGBTQ2+. Alors, on a là aussi vraiment encore un indice qu'il y a vraiment des situations de précarité qui affectent de manière particulière les personnes de LGBTQ+, ou bien encore font obstacle à leur entrée sur le marché du travail, ou bien, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, vivent un climat peu acceptant, vivent du harcèlement, qui parfois les pousse en fait à quitter leur emploi, à changer d'emploi. Alors, on a toute une panoplie d'indices comme ça, mais notre objectif, c'est vraiment de plonger dans les conditions de vie socio-économique des personnes et d'aller essayer de mieux comprendre comment ça se passe.
Je veux juste ajouter, pendant la pandémie, il y a une étude d'Égal Canada qui démontrait que les personnes des communautés LGBTQIA+, étaient plus négativement touchées par la pandémie de COVID-19. Oui. Alors, mais ça, c'est des choses qu'on constate. Mais là, vous cherchez à expliquer pourquoi.
Bien, exact. En fait, donc, c'est un grand projet. En fait, on est 31 chercheurs universitaires à travers le Canada. Quelques collègues américains aussi se joignent à nous.
Il y a une trentaine... Ils ont le droit de faire des enquêtes sur nous, les autres, maintenant?
Bien, en fait, tout ça a commencé avant.
Ah, d'accord.
J'allais dire le régime actuel, mais tout ça a commencé un peu avant.
Okay.
Alors, mais donc, une trentaine de chercheurs, une trentaine d'organismes communautaires aussi à travers le Canada... beaucoup d'étudiants aussi travaillent avec nous. On a un comité consultatif communautaire aussi pour orienter les décisions, les données qu'on va colliger. Et vraiment, à travers ce projet, d'abord, c'est un projet en trois volets. Peut-être que c'est...
Ouais, d'accord.
il faut le préciser.
On va le préciser, oui.
Alors, il y a l'enquête, il y a le sondage, en fait, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Mais quand on répond au sondage, puis on va y revenir, on peut aussi manifester notre intérêt pour participer à des groupes de discussion ou à des entrevues individuelles.
Okay.
Donc, c'est vraiment un projet à multiples facettes parce que pour comprendre un phénomène aussi complexe que la précarité, les trajectoires de précarité, on a besoin vraiment d'avoir de multiples fenêtres sur le phénomène. Alors, on ne veut pas juste décrire les gens à travers des chiffres, on veut aussi connaître leur histoire, raconter leur histoire, porter leur voix.
Donc, je vais peut-être poser quelques questions sur quelle sorte de questions on va poser aux gens. Qu'est-ce qu'on va leur demander précisément?
Bien, d'abord, on va leur demander... c'est des questions que beaucoup de personnes trouvent relativement intimes, mais on a quand même besoin d'avoir ces données-là. On va leur demander c'est quoi leur revenu? C'est quoi les sources de ce revenu aussi? On va les questionner sur la possibilité d'avoir vécu de l'insécurité alimentaire. Hein? Par exemple, de ne pas avoir eu assez de nourriture. Pour manger à sa faim, d'avoir dû couper les portions pour étirer l'épicerie plus longtemps, la difficulté à boucler les fins de mois, la difficulté à payer ses factures. On n'a pas besoin d'avoir vécu ces situations pour répondre au sondage. Hein. Ouais. Nous, pardon, ce qu'on veut faire, c'est documenter l'état de la situation.
Parce que c'est l'aspect économique, mais aussi l'aspect du bien-être social.
Ben exactement.
Ça, c'est autre chose.
Ben oui, exactement. Donc, en fait, c'est assez vaste. Il y a aussi les expériences possibles d'itinérance ou même l'itinérance cachée en le fait d'avoir eu nulle part où dormir et d'avoir dû dormir chez des amis. Donc, souvent, on ne le voit pas comme de l'itinérance, mais c'est des situations fréquentes entre deux logements. On connaît la pénurie du logement actuel.
Tout à fait.
Alors, donc, le fait de ne pas avoir un endroit chez soi, c'est aussi une forme d'itinérance. Donc, on a besoin de documenter, d'avoir vraiment un portrait de ces situations. On s'intéresse aussi, en fait, aux coûts pour les soins de santé, pour les assurances, parce que ça fait partie aussi de notre quotidien. Il y a aussi ce qui nous intéresse parmi les questions qu'on pose.
Est-ce qu'il y aurait des questions relativement à la violence? Parce que la violence, là, je veux qu'on s'entende, je ne parle pas juste de la violence physique, il y a la violence qui est dans les mots, est-ce que ça va faire partie de
exactement.
Votre questionnaire?
Oui. Voilà. Donc, les expériences de discrimination, les expériences d'intimidation, de micro-agression, en fait, parce que c'est un déterminant majeur des trajectoires socio-économiques. Alors, on le voit, en fait, des marques de discrimination dans des enquêtes qu'on a faites antérieurement. Parfois, on n'est pas appelé en entrevue parce qu'il y a des marqueurs de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle ou de notre statut de personne LGBTQ 2+, par exemple, dans notre CV ou dans notre lettre de présentation. Et donc, parfois, mais les CV sont mis de côté. Parfois, quand c'est en entrevue, ben, on détecte quelque chose dans la voix, les manières, ou simplement on révèle des informations sur nous. Et donc, les gens ne sont pas rappelés pour être embauchés. Donc, ils sont aussi exclus.
Ouais.
Puis une fois en milieu de travail, en fait, nous, on a documenté des obstacles comme le fait d'être rétrogradé à des postes moins intéressants, le fait de ne pas avoir un emploi qui correspond à ses compétences, donc de devoir occuper des emplois qui sont en deçà de notre profil de compétences, d'être moins payé que les autres. Pour un travail similaire, le refus de promotion, des évaluations injustes. Alors, tous ces obstacles, ils existent, mais on les tient de différentes enquêtes.
Okay.
Là, on veut questionner tout ça dans une même enquête pour établir des relations entre les variables, établir des profils. Donc, quels sont les profils de personnes qui vivent? Quel type d'obstacles, par exemple? Comment ça a affecté leur trajectoire sur le long terme? On va aussi les questionner, pas juste à travers un sondage, comme je le disais, mais aussi à travers des groupes de discussion, des entrevues. Donc, tous ces volets du projet sont importants pour tracer un portrait global.
C'est la première fois que ça se fait. Je me rappelle, dans mon jeune temps, on parlait de l'argent rose et que les personnes de nos communautés étaient financièrement, étaient socialement plus à l'aise. Je me disais, mon Dieu, qui est-ce qui ont interviewé? Parce que moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans.
Ouais.
Alors là, c'est vraiment une vraie...
Écoute, c'est important, en fait, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de l'argent rose. En fait, il y a une stratification à l'intérieur de nos communautés. D'ailleurs, on n'est pas une communauté, on est des communautés, des groupes extrêmement diversifiés. Et tout le monde ne fait pas face aux mêmes obstacles. Mm-hmm. Puis nous, ce qu'on a observé dans notre projet Savie LGBTQ, en fait, il y a quelques années que j'avais co-dirigé avec mes collègues Lynn Chamberlain et Isabelle Côté, c'est qu'on a observé des hiérarchies très claires, hein, des hiérarchies qui sont basées sur le sexe, les hommes, par exemple, gagnant plus que les femmes, sur l'identité de genre, sur la modalité de genre, les personnes trans et non-binaires gagnant moins que les personnes cisgenres, les personnes racisées gagnant moins que les personnes blanches dans l'échantillon. Alors, toutes ces hiérarchies-là, en fait, elles sont observées. Donc, oui, on peut parler de l'argent rose, mais on parle de groupes assez privilégiés. C'est ceux qu'on voit, c'est ceux qui voyagent, c'est ceux qu'on photographie pour les publicités.
Oui, tout à fait.
Mais c'est pas la majorité des gens. Hein.
Non, tout à fait. Alors, c'est donc la première fois qu'on le fait. Ça va être quoi le défi? Parce que là, on parle justement de ce qui était au cœur du problème des études dans le passé. Moi, je me rappelle quand on parlait de cet argent rose, les études étaient faites. En fait, on interviewait des hommes, parce que exclusivement des hommes qui sortaient des bars aux États-Unis. Pour aller dans les bars.
Il y a déjà un moyen. Ben oui.
Alors, c'est sûr que ça faussait un peu les données. Alors, vous allez vous y prendre pour éviter de fausser ces données-là? Bonne question.
En fait, le recrutement, c'est comme un peu le nerf de la guerre de la recherche. Mais c'est aussi le plus grand défi quand on travaille avec des communautés ou des populations que l'on dit cachées. Mm-hmm. Cachées parce qu'on n'a pas de paramètres populationnels. T'sais, le recensement canadien nous dit il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, maintenant il y a combien de personnes non-binaires. Voilà. Mais on a très peu de données pour établir un portrait des personnes sur la base de l'orientation sexuelle. l'orientation sexuelle va être ajoutée dans le prochain recensement. D'ailleurs, il faudra s'en reparler.
Oui.
Alors, ça, c'est génial, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, le recrutement, en fait, sûr que c'est un défi. Hein. Je pense qu'on a tous raccroché plusieurs fois au nez des sondeurs qui nous appellent pendant le souper pour nous poser des questions. Nous, on ne fait pas ça. Alors, nous...
Je me reconnais là-dedans.
Oui, hein, moi aussi. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on envoie... pardon. On envoie... En fait, on invite les gens à s'inscrire à travers un lien sur le web.
Oui.
Puis, on leur envoie un lien pour participer. Pourquoi ces deux étapes? Parce que maintenant, il y a tellement de robots qui automatiquement remplissent des questionnaires pour avoir la paye au bout. Alors, nous, on donne 15 $ par questionnaire complété à la fin. Donc, mais il y a tellement de robots qu'on doit procéder en deux étapes et valider, en fait, l'éligibilité. Et donc, les gens répondent ensuite quand ils veulent. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle un échantillon de volontaires ou de convenance. Donc, ce n'est pas d'emblée représentatif. Alors, ce qu'on veut, c'est dans un premier temps diversifier au maximum le profil des personnes qui répondent. On a besoin de personnes en situation de handicap, des personnes qui ne le sont pas, des personnes cisgenres, des personnes trans non-binaires, des personnes racisées, des personnes blanches. On a besoin vraiment, si vous vous demandez si vous devriez participer, la réponse est oui, parce que c'est sûr qu'on a besoin de vous. Puis on a besoin de vous aussi pour des raisons politiques. Puis j'espère qu'on va avoir une minute pour en parler.
Oui,
après.
Allons-y. Oui, oui.
Oui, on a une minute
on
maintenant.
Une minute.
Bon, donc, parce que je pense qu'actuellement, on a vraiment un discours sur l'invisibilisation et l'effacement. On l'a vu même sur les monuments aux États-Unis. Donc, il y a vraiment une volonté politique d'effacer nos communautés, d'effacer notre présence dans l'espace public. Et c'est sûr que moi, comme chercheur, c'est la voie que j'ai choisie. Produire des données, publier des données, donner une voix à travers des entrevues, des groupes de discussion aux personnes de nos communautés, c'est une manière de militer, c'est une manière de lutter contre l'effacement, c'est extrêmement important. En fait, je pense que faire de la recherche et participer à des études aujourd'hui n'a jamais été aussi important. C'est un geste militant essentiel.
Bon, c'est dit, puis ça m'amène à ma prochaine question, parce que on l'a mentionné hier, il y a une hausse de la violence envers nos communautés. J'ai parlé à un intervenant de Trans-Mauricie, Sam Desbiens, qui a même dit maintenant, quand je sors, je mets un autre T-shirt pour ne pas être identifié. Oui. On a l'impression que les gens ont tellement peur qu'ils retournent au placard. Vous faites une enquête dans un moment très difficile pour nos communautés.
Oui, absolument. Absolument. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut la faire. Je pense que c'est justement une motivation supplémentaire. Ce n'est pas le temps de reculer, ce n'est pas le temps de lâcher, ce n'est pas le temps de rentrer.
De toute façon, c'est confidentiel quand vous répondez.
Exactement, exactement. Et ce qui est bien, justement, c'est que c'est une manière de militer qui ne nous expose pas. Parce que les données, elles sont transmises par des chercheurs, puis elles sont transmises à des politiciens. Et il n'y a rien de plus utile, je pense, pour influencer les politiciens, les décideurs publics, que des chiffres et des extraits de vécu, des citations.
J'aimerais aussi qu'on explique aux gens à quoi vont servir les données qui seront colligées par cette étude.
Bien, c'est important, en fait, parce qu'on a souvent l'idée que la recherche, ça produit des données, ça produit des connaissances, puis que ça, après, on ne fait rien. Mais le projet, c'est vraiment dans l'objectif de produire des résumés, des plans, des stratégies, en fait, pour influencer les différents paliers de gouvernement. Donc, c'est une enquête canadienne, pan-canadienne, mais on va produire des portraits par province. On va produire des portraits nationaux pour les territoires également, parce qu'on a des gens qui participent là-bas. L'idée, c'est vraiment, en fait, de pouvoir montrer quelles sont les spécificités de la précarité, de la pauvreté chez les personnes de LGBTQ2+, pour vraiment les sensibiliser, les éduquer, peut-être prévenir aussi des situations de discrimination. Si on sensibilise davantage les employeurs potentiels, les gens des ressources humaines, peut-être qu'on va contribuer à ce qu'il y ait moins d'exclusion du marché du travail. Puis aussi, ben, peut-être qu'il faut adapter les programmes de lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale pour tenir compte des spécificités de nos communautés.
Et cette enquête se termine quand?
Alors, on aimerait terminer le recrutement à la fin août.
Oui.
À peu près pour pouvoir, parce qu'en fait, les entrevues se poursuivent, les groupes de discussion se poursuivent, mais fermer l'enquête, en fait, pour commencer à analyser les données et commencer à produire assez rapidement des données.
Si les gens veulent s'inscrire, il y a un site web, j'imagine, on fait la chaire.
Oui, en fait, si on va sur le site de la chaire DSP, chaire dsp.ucam.ca, donc il y a le lien et les infos pour l'enquête. Sinon, on peut écrire aussi au courriel de la chaire, puis on va vous transférer les informations. Il y a aussi la page Facebook de la chaire, chaire des SPG aussi.
Bien, merci beaucoup, Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres.